ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Frédérique Pasturel, vous êtes enseignante retraitée, mère et grand-mère. Vous venez nous parler de la conférence des baptisés et baptisées de France ou francophones et d'une organisation à Toulouse qui s'appelle, et un peu au-delà, qui s'appelle Les 7 pour faire du neuf. D'abord, merci d'avoir accepté cette invitation et de venir nous parler de votre foi. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois, et elle a démarré très tôt. Je suis fille d'officier, ma vie a commencé en Algérie.
Au baptême, peut-être.
Au baptême, nous fûmes baptisés, ma jumelle et moi, un jour de Noël, parce que nos parents étaient en deuil par un père Bolland, et dans une toute petite église. Et pour nous, l'appel à la prière, c'est le muezzin. Nos parents nous ont appris très vite à respecter la prière des musulmans avec lesquels nous vivions et avaient une certaine admiration pour cette prière.
C'est pour ça qu'alors vous nous proposez d'entrée de jeu la sourate 113, Al-Falaq, le point du jour, dit encore l'aube.
Oui, nos amis Mouna et Abderrahmane, avec lesquels nous avons une longue amitié, nous prions ensemble. Et c'est Mouna qui m'a offert la traduction de cette sourate que je vais vous lire.
C'est de 5 versets, très courtes, à la Mecque. C'est l'avant-dernière sourate, parce qu'elles sont, mises, la plus longue d'abord, la Fatiha, et puis ensuite, ces deux dernières, la 113.
C'est un extrait. Par l'aube et par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment le Seigneur a agi avec les Ahad? Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Talmuds qui taillaient le rocher dans la vallée.
Alors nous allons avoir peut-être des retours d'amis musulmans qui ne vont pas partager cette traduction assez libre et poétique. Et j'en apporte une autre, d'ailleurs c'est celle de Gloton. D'abord, toutes les sourates commencent, il faut le dire, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Après, alors, il y a une manière de dire, doit-on, peut-on traduire en français ou en allemand, puisque vous êtes passé par l'Allemagne, ou dans des langues vernaculaires autres que l'arabe. Je cherche la protection auprès de l'enseigneur du jour qui pointe, contre le mal qu'il a créé, contre le mal d'une obscurité naissante quand elle s'étend, contre le mal de celle qui ne cesse de souffler dans les nœuds, contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. C'est une sourate qui nous appelle à la modestie et qui demande au secours envers le Dieu, l'unique.
Et cette foi commune en le Dieu unique nous amène, nos amis musulmans et nous, à prier ensemble au-delà de la mer qui nous sépare. Et par exemple, à jeûner un vendredi de Ramadan pour rejoindre mes amis. Voilà, et je crois que dans cette complémentarité des spiritualités différentes, nous marchons ensemble vers ce qui fait notre foi dans la vie.
Et parce que vous avez été, donc, je l'ai dit, baptisé, mais aussi on dit la communion privée puis solennelle, la confirmation, c'est un long parcours initiatique.
C'est un long parcours initiatique qui m'a toujours semblé essentiel. Et ma foi s'est inscrite aussi très fortement pendant mes années de lycée, où nous avions des aumôniers de lycée très proches de nous. Nous avons été engagés tout de suite, mon mari et moi, dans la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Et pour nous, la pratique de la foi et les questions qu'elle nous pose sur notre vie de tous les jours, de citoyens, citoyennes, de jeunes dans l'école, devant l'injustice de la réussite scolaire qui n'était pas donnée à tout le monde, eh bien, ça nous a tout de suite motivée
à oui, aller mais plus loin. Vous me disiez le jeûne et vous parlez de ces temps de réflexion. Mais vous avez dit aussi, et vous insisterez beaucoup dans la deuxième partie de notre dialogue sur la joie, le partage des gâteaux, la fête, la danse.
C'est vrai, les camps de l'amitié, la découverte de la montagne avec des groupes de jeunes dont nous avons été assez vite responsables quand nous avions 18 ans, dès que nous avons été majeurs. Et donc c'est vrai que cet engagement nous a mis à nous marier très tôt. À fonder une famille dans laquelle la place de Jésus-Christ était ouverte, de la prière, mais pas obsédante non plus, pas trop formatée. Il y avait de la prière, mais pas forcément tous les soirs. Et une pratique religieuse du dimanche, oui, pendant toute notre vie de parents, jusqu'à ce que nos enfants rechignent un peu.
D'ailleurs, vous me disiez, non, ils ne sont pas tous baptisés, donc ça, c'est la grand-mère qui laisse aussi la liberté aux enfants et aux petits-enfants.
Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans les couples de nos enfants. 3 sur 4 se sont mariés à l'église. Le dernier, par conviction et respect pour sa jeune épouse, n'a pas voulu faire cette démarche en disant qu'il ne voulait pas la forcer à dire des choses qu'elle ne croyait pas. Okay. Et nous avons fortement respecté cela. Ses enfants ne sont pas baptisés non plus.
Cette liberté, on la sent aussi en vous-même par rapport à ce que je dirais un gros mot, mais par rapport à l'institution. Alors, prions en église, oui, mais en même temps, le retour aux origines, peut-être ?
Je le crois depuis toujours. Notre fille aînée a eu 4 ans, le jour où elle nous a dit qu'elle aussi, elle voulait mettre ses pas dans les pas de Jésus en sortant de la messe, et en me demandant si ça avait un lien avec la communion que je venais d'avoir. Je dis oui. Et mon mari rajoute, Bruno rajoute, ça a aussi un lien avec ce que nous vivons quand nous sommes syndiqués, quand nous nous battons pour que des personnes accèdent à leur dignité. Et ma petite fille dit, moi aussi je veux mettre mes pas dans le pas de Jésus. Le dimanche suivant, je prends l'hostie.
Dans la main sur la langue ?
Dans la main.
À l'époque déjà ?
Oui, mais il y avait un moment, hein, le concile était passé. On était en 70-81. Je partage mon hostie en deux et j'en donne la moitié à ma petite fille. Et quand j'en parle au prêtre quelques jours après de la paroisse, il me dit, vous avez eu raison. Cet enfant a une démarche de foi. Et par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une préformation catéchétique pour le groupe d'enfants dans lequel elle se trouve, pour manifester que c'est une démarche d'église.
Pas seulement de les mettre de côté quand elle crie un peu trop fort pendant l'homélie du prêtre.
Non, parce qu'elle ne criait pas, elle était sage. Ses petits frères étaient plus compliqués.
Non, mais ça pose une question, justement. Je vous titille un peu parce que c'est un grand débat par rapport au rituel. Dernièrement, à France Culture, nous avions un grand débat, la politique du Vatican, et puis par rapport aux prêtres qui nous viennent d'autres continents, Fidei Donum, et par rapport aussi aux tensions qui existent, d'où peut-être cette question que nous allons aborder tout à l'heure du synode sur la synodalité.
Certainement, mais je pense que ce que l'on peut dire, c'est que l'Église est en marche. L'Église est en marche, enfin, les compagnons de Jésus qui le suivaient sur les route de Palestine, un lui dit un jour « Qui est mon prochain ?» Et un autre lui demande « Que devons-nous faire pour te suivre ?» Alors la réponse de maintenant, c'est « Le prochain, bien évidemment, c'est mon voisin de palier, c'est ma famille, ce sont mes enfants, mais c'est aussi les gens de mon village. Si je suis engagée à la commission de cohésion sociale, c'est bien parce que le prochain est là. Mais avec les nouveaux moyens de communication et le monde tel qu'il est, je sais que mon prochain, c'est aussi les gens de l'autre côté du monde qui vont être submergés à cause de la fonte des glaciers et du changement climatique. Donc, le prochain d'aujourd'hui n'est pas forcément celui qui était au Moyen-Âge. Enfin, en tout cas, la conscience qu'en ont les chrétiens. Et nous qui sommes les compagnons de Jésus, qui nous voulons compagnons de Jésus aujourd'hui, c'est à nous que se poser cette question. Et que devons-nous faire pour te suivre ? C'est donc que Jésus est en marche et qu'il ne nous propose pas de le rencontrer là, autour d'une table, mais de marcher avec lui.
Autour d'une table, vous évoquez l'image qu'on a mise sur le site et qui va nous occuper dans la deuxième partie de notre réflexion pour savoir justement est-ce qu'il y a une fonction tout à fait importante et particulière des successeurs de Pierre. Et puis les prêtres, comment est-ce qu'il faut qu'ils soient habillés pour célébrer le saint sacrifice de la messe? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres manières de rappeler que Jésus est mort pour nous et qu'il a donné son corps qui devient du pain que l'on peut adorer dans le tabernacle?
Alors, première chose, la photo, c'est une malle. C'est une malle d'un grand voyageur qu'on a trouvé, mon mari et moi, un jour dans une cave et qui a remplacé notre table basse en verre qu'un enfant avait cassée. Et on avait eu très très peur qu'il se fasse mal. Et le jour où on a trouvé cette malle, on l'a mise au milieu de notre salon et depuis, elle nous suit. On roule le tapis, on transporte la malle et notre vie est là. C'est la malle de l'apéritif, c'est la malle des jeux et c'est aussi la malle où il y a les textes, la croix de Jésus, les fleurs et la bougie.
Et un jour, certains jours dans le mois, il y a donc une
célébration,
on appelle ça une eucharistie domestique.
Une eucharistie domestique. Alors j'insiste aussi, quand nous sommes emparés de ce terme, nous avons aimé parce que ça nous a rapprochés de la tradition des premiers temps à Rome, quand les chrétiens persécutés célébraient dans les maisons, accueillis par les femmes qui se convertissaient d'abord, souvent convertissaient leurs maris, convertissaient leurs enfants, leurs esclaves et toutes leurs maisonnées, d'où le mot domus, domestique. Alors que maintenant, domestique, ce sont plutôt des personnes qui sont au service. Et puis Eucharistie, parce que c'est effectivement le sacrement de l'Eucharistie. Mais nous parlons au monde et très souvent, le terme que nous employons, c'est messe à la maison. Parce que ça, c'est audible par tous ceux autour de nous qui ne sont pas forcément aussi savants que nous, entre guillemets, dans les traditions catholiques. Alors, et pourtant, ça veut dire la même chose. Et donc, nous sommes hantés par le fait que nous sommes d'église, mais nous nous situons sur le parvis. Nous sommes d'église, mais nous ne nous sentons plus à l'aise dans la forme de la messe formatée telle qu'elle est distribuée dans nos églises.
On sent une grande force, une grande conviction et peut-être, j'allais dire, un certain combat. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir apporté ce moment de pause, ce moment de calme qui est celui de la 11e symphonie de Shostakovich. Merci Christophe.
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Madame Frédérique Pasturel, vous êtes enseignante retraitée. Vous venez nous parler des 7 pour faire du 9, et c'est justement une des innovations, peut-être, il faudrait dire, même si ça revient très au début de l'Église, pour ces Eucharisties à la maison ou domestiques.
Nous aimons bien la formule que Jean-Michel Madamé nous a suggérée de parler de fidélité novatrice. C'est-à-dire qu'on se situe bien dans la tradition, mais nous préparons entre laïcs ces messes. Le prêtre qui a la gentillesse de nous accompagner à sa place, comme tout le monde, il intervient, et bien sûr, c'est lui qui consacre le pain et le vin. Mais quand il n'est pas là, pour une raison ou pour une autre, la célébration a lieu, notre rencontre et notre partage autour de la parole a lieu. Nous en tirons une grande richesse, nous sommes tous actifs, nous apportons à la lumière de l'esprit ce qui nous fait vivre. Notre demande de pardon n'est pas désincarnée, mais elle est appuyée sur ce que nous vivons. Et quand nous n'avons pas le corps et le sang du Christ, nous changeons de lieu. Nous allons dans la véranda, nous sortons les verres, la bouteille de vin et la corbeille de pain. Un de nous bénit le pain et chacun sert son voisin. Et nous partageons le pain et le vin. Et nous sommes très conscients...
Qui, à ce moment-là, n'est pas consacré. Comme le disent certains de nos frères protestants, qui est le signe de cette communion au nom de Jésus qui est présent quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il faut dire aussi qu'il y a une grande préparation. Oui. Un mois plus tôt, vous avez les
annoncé.
Textes.
Alors, la chance qu'on a, c'est de vivre à notre époque, parce que les textes nous sont apportés par nos ordinateurs. Nous ne sentons pas toujours très bien, mais nous avons le support de moyens de chant que nous pouvons écouter. À l'époque, pour ceux qui ne savaient pas lire les partitions, ce n'était pas possible. Donc, on a gagné en liberté. Et les prêtres qui nous accompagnent respectent cette liberté et nous apportent beaucoup. Nous nous enseignons les uns les autres. Alors, j'en veux pour preuve la dernière qui s'est passée le 13 octobre, juste après les drames du Proche-Orient. Nous étions peu. Nous étions dans l'affliction, dans le sens d'un péché collectif. Et dans l'échange, un d'entre nous connaissait mieux l'histoire d'Israël et du Hamas et de la Palestine.
Peut-être rappeler l'homélie de Madame Delphine Orviller qui a
que nous avions lu
théologie politique.
Extraordinaire. Et nous en avons parlé. Et en sortant, nous étions tous revigorés parce que nous avions échangé à la fois des connaissances historiques, mais aussi nous avions senti l'esprit qui nous ouvrait les uns aux autres.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure avec conviction cette démarche des 7 pour faire du 9. Peut-être vous n'avez pas dit que Jean-Michel Madamé était frère dominicain. Il est venu ici à Radio Présence plusieurs fois, mais entre autres lorsque, avec Anne Soupa et Christine Pedotti, nous avons évoqué ni se taire, ni partir,
ni nous taire. Et ça, c'est quelque chose que la CCBF créée par Anne Soupa et Christine Pedotti m'habite depuis très longtemps, puisque je suis à l'origine de la création de la CCBMIP ici, autour de Toulouse.
Il faudra que vous reveniez, parce que j'aurais voulu que nous évoquiez l'intervention de Paul Zettli, présidente de la Conférence des baptisés de France, et il nous reste bientôt plus que 3 minutes.
Alors, je vais quand même dire quelque chose d'essentiel. C'est qu'on nous accuse d'entre-soi et on nous accuse peut-être de vouloir être schismatique. Et là, pas du tout. Quand on a les chiffres, 38% des Français se disent catholiques et 2% pratiquent la messe du dimanche à la paroisse. Qui est entre-soi? Eux
et vous
ou
avez
nous
écrit à Monseigneur de Kerimel, non sans aussi méditer sur le livre de son frère, Loïc de Kerimel, qui reprend les propos du pape François, en finir avec le cléricalisme.
Que nous avons lu en 2018, quand le pape François a envoyé une lettre à tous les baptisés, demandant de l'aide pour lutter contre le cléricalisme. Alors, nos frères prêtres sont nos frères véritablement. Ce n'est pas contre eux que nous sommes, mais nous sommes contre une institution verticale qui donne un pouvoir sclérosant pour l'Église, à un cléricalisme qui parle l'Église du XIXe siècle, comme en parlait l'archevêque de Poitiers à la fin des assises de la CCBF dimanche 15 octobre.
Alors, il y a un gros travail qui est en cours et on peut reprendre peut-être aussi la phrase de Madame Dominique Hervieux-Léger, qui est sociologue, catholicisme, la fin d'un monde. Mais nous sommes ouverts, vous êtes ouverte avec la force de l'esprit.
Un mot ?
Mais bien sûr.
Nous voudrions que les groupes qui existent sur Toulouse puissent, à l'occasion, être invités dans une paroisse en tant que Eucharistie domestique, messe à la maison, et que nous puissions témoigner de ce que nous y vivons, que nous puissions partager avec nos frères en paroisse pour leur, comment dire, leur partager le bonheur que ça nous apporte d'être des chrétiens actifs, des frères et des sœurs, à la découverte d'une nouvelle façon de vivre l'Eucharistie en liberté.
Et ouvert aux autres, puisque nous avons commencé par la sourate 113 de l'Aube, et nous pourrions évoquer aussi la dernière sourate par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour. Je cherche la protection auprès de l'enseigneur des humains. Et vous nous avez apporté le psaume qui conclura notre méditation avec nos frères de la Première Alliance. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Écoute, Israël, apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Tu es bon. Tu fais du bien. Apprends-moi des commandements.
Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir.
Que je n'oublie jamais tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes, toi qui es, qui étais et qui viens pour les siècles des siècles. Et nous pouvons dire Alléluia, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et nous chantons, nous sommes tous frères.
L'amitié des âmes à toutes nos guerres.